Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Une bande dessinée et une exposition au sommaire de Mémoire vive aujourd'hui. Une double actualité qui célèbre un même personnage, Rose Vallant. Rose Vallant, capitaine Beaux-Arts. Rose Vallant qui s'est fait connaître par un acte de résistance civile. Attachée de conservation au musée du Jeu de Paume pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut témoin des pillages et des spoliations des œuvres d'art appartenant à des collectionneurs juifs et francs-maçons, et plus largement à toutes les personnes considérées comme ennemies de l'Allemagne nazie. Témoin de ces spoliations, Rose Vallant décida de rassembler secrètement le maximum d'informations sur l'origine et les conditions de ces confiscations, une œuvre de résistance qui permettra, après-guerre, de retrouver près de 60 000 œuvres saisies dans les collections françaises. Une exposition, donc, au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, exposition intitulée « La Dame du Jeu de Paume, Rose Vallant sur le front de l'art », expo présentée jusqu'au mois de mai 2010, et une bande dessinée, Rose Vallant, capitaine Beaux-Arts, qui vient de paraître aux éditions Dupuis. Emmanuel Polak, bonjour. Vous êtes commissaire invité à l'exposition de Lyon et co-scénariste de la bande dessinée parue chez Dupuis. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce regain d'intérêt pour la figure de Rose Vallant aujourd'hui ?
Eh bien, c'est vrai que cette figure assez méconnue un peu remise au goût du jour depuis la republication de son ouvrage en 1997 par la Réunion des musées nationaux, de son ouvrage qui s'appelait « Sur le front de l'art ». Donc, ouvrage qu'elle avait publié en 1961, dans lequel elle racontait effectivement la mise à l'abri des collections nationales, puisque vous avez parlé très justement du pillage des collections privées, mais les collections publiques, grâce à l'intervention de Jacques Jaujard, le directeur des musées nationaux, à partir de 40, eh bien, a été largement protégée des convoitises allemandes. Et Rose Vallant retrace ce périple des œuvres à travers la France dans son ouvrage. Et cet ouvrage sera republié en 1997. Et donc c'est vrai qu'on la redécouvre à ce moment-là. On la redécouvre également parce qu'il y a un grand colloque organisé par la direction des musées de France, par Françoise Cachin, qui fait un portrait tout à fait élogieux de l'action de Rose Vallant pendant la période de l'occupation, puisqu'elle reste, comme vous l'avez dit, justement, au musée du Jeu de Paume, musée qui était avant-guerre un musée d'avant-garde, dédié aux peintures étrangères contemporaines, et ces peintures vont être condamnées par l'esthétisme du Troisième Reich.
Alors, Emmanuel Polak, la bande dessinée Rose Vallant, capitaine Beaux-Arts, s'ouvre par une scène qui a lieu le 1er août 1944. On y voit Rose Vallant sur son vélo qui arrive au musée du Jeu de Paume, donc où elle travaille à Paris. Un officier allemand lui demande son laissez-passer. Et pourquoi ouvrir cette bande dessinée à cette date précise du 1er août 1944 ?
La date du 1er août 1944 est très importante, puisque on sait que les Alliés sont déjà arrivés, on attend bien évidemment leur arrivée imminente à Paris, et Rose Vallant est restée pendant 4 années du 1er novembre 1940, qui est l'installation de cet état-major particulier qu'on appelle l'ERR, qui a la mission secrète de vouloir piller les collections juives, la collection des francs-maçons également et de tous les opposants du Troisième Reich. Et en fait, 1er août 1944, les Allemands sont à l'intérieur du musée du Jeu de Paume, sont sur le départ, sont dans la précipitation. Néanmoins, Ils poursuivent leur action jusqu'au bout, puisqu'ils ont décidé d'emmener les œuvres d'art moderne du collectionneur Paul Rosenberg jusqu'au bout, et ils ont décidé de le faire partir dans le train.
Donc il y a dans le musée du Jeu de Paume 148 caisses en bois remplies d'œuvres d'art que les Allemands, donc sur le point d'évacuer Paris, veulent emmener dans leur fuite en Allemagne.
Absolument. Il continue coûte que coûte. Et là, Rose Vallant intervient puisqu'elle va récupérer les indicatifs du train et elle les confie à son supérieur hiérarchique, qui est Jacques Jaujard, dont je viens de parler, et pour qui j'ai une grande estime, admiration. C'est un résistant de la première heure, Jacques Jaujard, et c'est lui qui met au point ce système. Donc en fait, les indicatifs sont transmis à Jaujard. Jaujard se met en relation avec le réseau de résistance FER, et bien évidemment, le train va être... Alors cet épisode est assez... connu par la vulgarisation entre guillemets, mais par un film qui a eu son succès puisqu'il a été mis en scène par Frankenheimer avec Burt Lancaster.
Film Le Train, donc.
Le film Le Train, tout à fait.
Donc les cheminots résistants vont donc saboter les voies, vont tout faire pour que ce train ne puisse pas partir vers l'Allemagne, et donc ce train va errer dans la région parisienne pendant les quelques semaines entre le 1er août 1944 et donc la libération de Paris.
Tout à fait, voilà, c'est ce qu'on appelle le train d'Aulnay. Donc, épisode qui a été un petit peu galvaudé. Je pense que ça n'a pas apporté que des amis et que des compliments à Rose Vallant, parce que l'accent a été mis sur la résistance FER et sur les cheminots. Et moi, ce qui me gêne, et je l'ai remis un petit peu plus tard, et on en parle aussi un petit peu dans l'exposition, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, des trains de déportés et des trains de résistants politiques partaient. Par exemple,
il y a encore eu quelques trains de Drancy, donc un ou deux trains qui sont partis train musée arrêté par la résistance.
Oui, donc j'ai vraiment une date en tête, 15 août 44, avec les déportés politiques. Germaine Tillion ira à Ravensbrück et les hommes iront à Buchenwald. Et puis le 17 août 44, les 50 derniers juifs qui partent accompagnés d'Alois Brunner.
L'œuvre de résistance de Rose Vallant ne s'arrête pas à ces quelques jours du mois d'août 1944, où elle va prévenir la résistance et donc faire arrêter ce train rempli d'œuvres d'art à destination de l'Allemagne. Son œuvre de résistance avait commencé bien avant, et cela tenait, Emmanuel Polak, à la place exceptionnelle qu'a occupée Rose Vallant au musée du Jeu de Paume. Elle était en fait au Jeu de Paume, donc dans le centre de Paris, juste à côté de la place de la Concorde, aux premières loges pour découvrir l'ampleur des spoliations de biens culturels par les Allemands.
Oui, vous faites bien de le rappeler. Le musée du Jeu de Paume, place dans les jardins des Tuileries, est un lieu tout à fait isolé. Donc, qui permet aux camions d'arriver, qui permet aux soldats qui entouraient le musée du Jeu de Paume de débarquer les œuvres, de les parquer, de les exposer à l'intérieur du musée sans que personne ne voit. Puisqu'il faut rappeler qu'Hermann Göring, grand collectionneur d'art, viendra pas moins de 21 fois au musée du Jeu de Paume faire son marché, si vous me passez l'expression. Et là, l'action de Rose Vallant est formelle, puisqu'elle en fait donc alors elle prend des notes, mais elle les remet au propre et elle les confie toujours à Jacques Jaujard. Donc ce qui fait que j'ai pu travailler avec grand bonheur sur les 172 rapports feuillets de Rose Vallant, les feuillets de Rose Vallant, transmis aux archives des musées nationaux et qui ont été reliés par l'assistante de Jacques Jaujard, Jacqueline Bouchot-Sopic, qui a eu aussi tout de suite la médaille de résistance dès 1946, premier mois de 1946, et qui participait également de ce réseau de résistance. Rose Vallant n'est pas la seule. C'est vrai qu'elle a un rôle de résistante administrative. Elle note. C'est une résistance de papier. Et elle transmet à son supérieur hiérarchique.
Donc elle est aux premières loges, Emmanuel Polak, puisque le Jeu de Paume donc est réquisitionné par les forces allemandes. Et donc il devient le siège à Paris d'une organisation dont vous avez déjà parlé, l'ERR. Il faut peut-être préciser ce que c'est. Donc l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Donc une organisation qui donc a son siège au Jeu de Paume pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est un service de confiscation des biens juifs et francs-maçons dans l'Europe occupée, pas qu'en France, dans l'Europe occupée, et qui est dirigé par Alfred Rosenberg, représenté en France par le baron Kurt von Baer, pardon, et qui trouvera... Alors Kurt von Baer ne connaît strictement rien dans l'art. Il sera secondé de Bruno Loseux, qui est un fiefé coquin. on dira ça, qui lui est vraiment un historien d'art qui s'y connaît vraiment et qui va faire une sélection pour Göring des plus belles œuvres. Et Göring n'aura plus qu'à venir et se servir dans ses collections pillées, confisquées et les faire voyager dans son train spécial pour sa résidence secondaire, Karring Hall, qui se situe à environ 60 km au nord-est de Berlin.
Alors pour montrer l'ampleur des activités de l'ERR, donc au jeu de paume pendant la Seconde Guerre mondiale, signalons que dès l'été 1940, Rose Valland, donc, qui est la seule Française encore en fonction au jeu de paume, voit arriver au musée plus de 400 caisses d'œuvres confisquées aux plus grands collectionneurs et galeristes juifs dès l'été 40.
Oui, tout de suite, les Allemands arrivent 14 juin 1940 et c'est un plan savamment orchestré et de très longue date. Donc dès l'été à l'été 40, les plus grandes collections juives appartenant à des collectionneurs juifs, à des grandes familles juives, sont réquisitionnées. Alors elles ne vont pas immédiatement au musée du Jeu de Paume, elles vont dans ce qu'on appelle le séquestre du Louvre. Elles vont tout d'abord dans trois salles au Louvre. Jaujard se dit que finalement il peut avoir un œil dessus, donc il trouve ça plutôt pas mal. Lorsque il souhaite, et les trois salles ne suffisent plus, il souhaite avoir un endroit isolé, c'est le musée du Jeu de Paume qui sera choisi pour ces différentes raisons, pour les grandes cimaises qui permettent d'exposer les œuvres spoliées, et puis cette grand édifice qui est à l'abri du regard des curieux.
Alors Emmanuel Polak, vous avez donc là précisé le rôle de l'ERR, vous avez évoqué la figure de Göring et son goût pour l'art, il viendra donc, vous l'avez dit, 21 fois au Jeu de Paume faire son choix dans les œuvres spoliées. Dans la bande dessinée que je présentais en début de conversation, donc Rose Valland, Capitaine Beaux-Arts, paru chez Dupuis, vous réalisez, outre donc votre collaboration au scénario de cette bande dessinée, un dossier documentaire, une chronologie, avec un très riche fond iconographique, et dans ce fond iconographique, vous reproduisez des photos où l'on voit Göring, donc au Jeu de Paume, et qui est installé avec cigares et coupes de champagne, et qui fait son choix donc dans les collections spoliées.
Oui, ces photographies sont exceptionnelles, elles sont ô combien précieuses, puisqu'elles attestent, hein, c'est vraiment un document historique, une preuve de premier ordre. Et effectivement, alors on le voit quelquefois en civil, on le voit quelquefois en uniforme, on le voit arriver, entouré d'une cour obséquieuse, prête à tous ses désirs. Et on imagine bien Rose Valland à ce moment-là, petite souris grise, qui note, qui connaît, c'est une historienne d'art, je veux dire, elle a une formation d'historienne de l'art, donc elle a 7 ans d'études théoriques, qui complète 7 ans d'études pratiques, donc elle connaît les œuvres, elle reconnaît les écoles, elle reconnaît les signatures, et on imagine bien son regard et son esprit occupé, enfin, vraiment terrorisé par ce qu'elle voit, et elle note tout ce qu'elle peut. Donc j'ai, par exemple, on a reproduit un extrait de son feuillet dans lequel elle dit: Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous dire que le 15 mai 1942, Göring, le Reichsmarschall Hermann Göring est venu au musée du Jeu de Paume. Il y est resté trois quarts d'heure. Voilà. Donc quelquefois c'est court parce qu'elle n'a pas le temps de donner trop d'informations, mais sinon il y a des informations, et on a le nom des signatures des peintres qui partent en Allemagne.
Alors donc nous poursuivons ce voyage en votre compagnie dans les pas de Rose Valland, et vous évoquiez la petite souris grise au Jeu de Paume qui notait donc le maximum d'informations sur ses œuvres spoliées, sur leur destination. Comment travaillait-elle rentrait chez elle le soir, en rentrant du Jeu de Paume, elle notait donc les œuvres qu'elle avait vues dans la journée, d'où elles venaient, où est-ce qu'elles étaient envoyées en Allemagne. Enfin, comment accomplissait-elle cet acte de résistance administrative?
Là, ce sont des supputations, parce que bien évidemment, je n'en ai pas la preuve. Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait très certainement des notes qui avaient été prises, puisqu'on a des informations assez précises. Mais c'est sur du papier en tête. Et je pense qu'elle prend sa plus belle plume pour écrire à son supérieur hiérarchique. Et donc, c'est toujours ce n'est pas fait dans la précipitation, sauf quelques notes fin 44, où là, effectivement, ça peut être pris à la sauvette. Mais il faut rappeler qu'elle risquait sa vie. Pour chaque note prise, elle avait la possibilité d'être passée par les armes. Donc, je pense qu'elle rentrait, enfin qu'elle avait quelques notes, elle se débrouillait comme elle pouvait. Elle fouillait les poubelles, par exemple, pour avoir les adresses. Elle questionnait beaucoup les emballeurs, les personnes qui étaient sur place pour avoir des noms, pour avoir des adresses. Mais ces listes de dépôts en Allemagne se sont vérifiées et ont été véritablement fiables et précieuses pour les services alliés qui partent directement en Allemagne dès la signature de l'armistice.
Parce que l'œuvre de Rose Valland ne s'arrête pas avec la libération de Paris. On a évoqué donc cette histoire du train-musée bloqué par la résistance dans la région parisienne au mois d'août 1944. Mais l'action de Rose Valland donc ne s'arrête pas là. Dès le mois de novembre 1944, elle est nommée secrétaire de la commission de récupération artistique. Et là, c'est un nouveau chantier qui s'ouvre. Après avoir été témoin de ces actes de spoliation, elle va tenter, avec les autorités françaises et alliées, de récupérer ses œuvres dans l'Allemagne occupée.
Absolument, c'est une femme d'action. Elle est assez incroyable puisque, effectivement, elle a été nommée par la commission de récupération artistique secrétaire, mais c'est mal connaître Rose Valland que de croire qu'elle va se réjouir de ce titre, qui est tout à fait honorifique, bien évidemment, mais elle demande à être engagée au sein de la première armée française pour partir en Allemagne. Elle reçoit son ordre de mission le 11 mai 1945. Il faut savoir, elle le reçoit, le 4 mai 1945, soit 4 jours avant la signature de l'armistice, pour un départ le 11 mai 1945 en Allemagne, juste le temps de récupérer quelques affaires, et elle part. Elle partira 10 ans. 10 ans sur les traces de ses œuvres spoliées. Une très jolie découverte au cours de mes recherches a été le journal de, par différentes pistes, je suis arrivée au journal de Jean Rigaud. Jean Rigaud étant une personne qui a accompagné Rose Valland dans ses recherches, et la famille m'a confié le journal. Donc j'ai pu avoir la trace de Rose Valland dans cette première année en Allemagne. Il faut savoir que, rappelons-nous le film Berlin année zéro. Enfin, vraiment tout est en ruines, sur des ruines fumantes, et les combats sont encore quelquefois un peu sporadiques. Enfin bon, c'est vraiment dans des situations très périlleuses, et elle va sillonner. Alors elle part avec la première armée française, mais comme les dépôts sont par pure coïncidence dans la zone de Bavière et que cette zone de Bavière est dévolue à l'armée américaine, elle demande son intégration à la 7e armée américaine, où elle deviendra lieutenant-colonel de la 7e armée américaine.
Et donc là, elle passe 10 ans en Allemagne, donc, à pister ses œuvres spoliées, ses tableaux volés. Quelles ont été ses principales découvertes ?
Alors, elle a déjà confié, c'est-à-dire que dès la libération de Paris, 25 août 1944, elle demande à se rapprocher des services alliés afin de leur confier ses listes, les indications. Et donc, les armées américaines, finalement, vont arriver avant sur les dépôts. Les dépôts vont découvrir les dépôts avant elles. C'est difficile de faire un bilan exact de ce que Rose Valland a sauvé. En présentation, vous avez très justement avancé ce chiffre de 60 000 œuvres retournées en France. On considère qu'il y a eu environ 100 000 œuvres transférées en Allemagne, donc 60 000 œuvres retournées en France, donc 45 000 œuvres auraient été restituées aux ayants droit lorsque cela était possible. Mais vous donnez des œuvres, d'abord ce sont des œuvres qui appartiennent à des collections privées, donc ça c'est difficile. Et pour les collections publiques, il y a eu très très peu d'œuvres finalement qui ont été... Il y a eu des demandes d'échange. Il y a eu vraiment, je parle souvent de la Belle Allemande, qui est un bois du XVIe siècle, que Göring a vu en 40, dans les toutes premières, l'été 40, et il en est tombé amoureux, bien évidemment.
Et comme sculpture présentée au Louvre. Donc.
Une sculpture présentée au Louvre, un bois du XVIe siècle de Gregor Erhardt. Et bien évidemment, comme elle porte le titre de la Belle Allemande, il souhaitait véritablement qu'elle retourne dans les En Allemagne. Et en fait, sur les indications de Rose Vallant, on la retrouvera à Berchtesgaden avec une partie de la collection de Göring. Mais là encore, on travaille encore pour savoir précisément ce qui était parti dans ce qu'on appelle, de façon impropre d'ailleurs, la collection Göring. Et grâce aux indications de Rose Vallant, on retrouve la belle allemande et elle reviendra dans les collections du Louvre. Ça prendra un petit peu de temps, mais elle rentrera dans les collections à partir, je vais vous donner la date précise, le 28 février 1946.
Donc, parce qu'une partie de ces œuvres parties en Allemagne donc devait, j'imagine, alimenter peut-être des musées. Il y avait la collection personnelle de Göring. On sait que quand il venait au Jeu de Paume aussi, il sélectionnait quelques œuvres pour les offrir, par exemple, à des grands dignitaires nazis, à Adolf Hitler ou à d'autres. Et puis, j'imagine aussi qu'il y avait des soldats qui devaient servir et que dans les transits de la France vers l'Allemagne, beaucoup d'œuvres ont disparu de ce fait.
Tout à fait. Des œuvres qui ont disparu en France au cours des pillages, des œuvres qui disparaissent lorsqu'on les retrouve, des populations également qui peuvent se servir. Il faut savoir qu'il y a l'ERR a fait un travail tellement méthodique qu'il y a, lorsqu'on retrouve les archives de l'ERR, finalement, on a des inventaires. Donc, on facilite ce travail de récupération. Mais nul n'est infaillible et il y a bien évidemment des pertes, des disparitions, des œuvres qu'on ne retrouvera plus, des œuvres qu'on cherche toujours, des œuvres qui ont été vendues à des prix indécents sur le marché de l'art et donc qui doivent être frappés de nullité. Donc je pense que c'est vraiment un travail qui est tout à fait en cours et un travail, une histoire en devenir.
Alors, il est compliqué, évidemment, vous venez d'en parler, de faire le bilan de l'action personnelle de Rose Vallant, capitaine Beaux-Arts. Donc, elle rentre en France en 1953, une fois son œuvre accomplie en Allemagne. Elle est décorée par l'armée américaine, par le gouvernement américain. Elle obtient la médaille de la résistance. Elle est faite chevalier de la Légion d'honneur en France. Et vous disiez que très vite après la guerre, enfin dans les années 50, une grande partie des œuvres allait être restituée. Donc, on estime le chiffre est de 45 000 sur les 60 000 œuvres récupérées.
Oui, tout à fait. Il y a eu un travail de grande ampleur de restitution, de récupération, mais également de restitution lorsque cela était possible, puisqu'on doit toujours avoir à l'esprit que des convois partaient. On connaît les chiffres là, 6 millions de victimes juives. Donc c'est vrai qu'il faut toujours mettre ça en regard. L'opinion publique n'a pas forcément en tête, parce qu'on a beaucoup entendu parler des 2000 MNR, des tableaux qui...
Alors MNR, il faut expliquer cet acronyme, donc Musées Nationaux Récupération, MNR. Ce sont les tableaux dont on a beaucoup parlé dans les années 90 et 2000, effectivement, et qui étaient des tableaux présentés dans les collections publiques françaises dont on ne connaissait pas, soi-disant, les précédents propriétaires. Donc, tableaux spoliés qui se retrouvent aujourd'hui dans les collections publiques françaises.
Bien sûr, qui sont mis en dépôt au sein des musées nationaux. Mais voilà, donc on a beaucoup parlé de cet épisode. C'est vrai, il faut continuer les recherches, bien évidemment. Mais je voulais quand même dire qu'il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été faites, notamment sur l'intervention de Rose Vallant. Et on est assez d'accord pour saluer son action méritoire, méritante.
D'accord. Pour terminer cette conversation, Emmanuel Polak, justement un mot sur cet enjeu général de la question des restitutions. Je le disais, dans les années 90-2000, il y a eu débat et même polémique autour du statut de ces œuvres MNR présentées dans les collections publiques françaises. Aujourd'hui, vous estimez satisfaisantes les dispositions qui sont prises par les pouvoirs publics pour retrouver les descendants ou les ayants droit de ces œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale ?
C'est un débat qui mérite vraiment réflexion. C'est une très bonne question. Je pense qu'elle ouvre sur un autre débat. Vous me permettrez d'avoir un devoir de réserve sur cette question. Je voudrais par contre profiter des quelques minutes qui me restent pour saluer le courage des éditions Dupuis d'avoir permis dans la seconde partie de la bande dessinée ce gros dossier détaillé et très illustré qui a été pour moi un vrai plaisir de faire puisque je retrouvais ma place d'historienne. Et je voulais surtout remercier la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui a été son soutien a été déterminant. C'était très important de partir avec eux sur un sujet qui n'avait pas été vraiment qui avait été peut-être amorcé, mais qui est très important de porter au grand public.
Emmanuel Polak, je vous remercie. La bande dessinée donc Rose Valland, Capitaine Beaux-Arts, parue chez Dupuis, et l'exposition qui a lieu donc à Lyon, La Dame du Jeu de Paume, Rose Valland sur le front de l'art.